Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
There has been an awakening. Have you felt it?
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational.
Hello, hello, and welcome to
Star Wars On Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
What is strong in this one?
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by.
We would be honored if you would join us.
May the Force be with us.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition Gamers qui sera consacrée aux dernières nouvelles du jeu Star Wars Legion et un petit peu aussi de nouvelles jeux vidéo ainsi que la description de la vague 11 du jeu Star Wars X-Wing Miniature. On essaie de faire un petit peu de rattrapage ici parce qu'il y a déjà la 12, la vague 12 et la vague 13 qui est sortie, mais on veut aller un peu plus en détail pour continuer notre séquence d'explication sur les cartes et les miniatures du jeu X-Wing. Je suis Danny Pépin et pendant que Jean-François soigne une gastro et que Sébastien profite du soleil des Caraïbes sur la croisière Star Wars de Disney, je suis accompagné ce soir de Julien Dor. Bonsoir Julien.
Bonsoir Danny. Nous deux on profite du froid québécois.
Et de la tempête. Qu'est-ce qui se passe de bon côté Star Wars pour toi Julien?
Eh bien, Dani, moi, j'ai participé le week-end dernier, au moment où on enregistre en tout cas, au tournoi régional de X-Wing de Montréal, donc le Régional 2018, qui est un très gros tournoi, enfin, relativement gros tournoi X-Wing, puisqu'on était 64 joueurs. Et ben, c'est un tournoi qui était pour la première fois organisé, en tout cas pour la première fois depuis quelques années, organisé à Montréal par l'Abyss, si je me trompe pas. Non, pardon! Par le Valet de Cœur, excusez-moi, d'accord. Le magasin Le Valet de Cœur, qui a trouvé un très très chouette lieu, une très très chouette salle pour faire ça, sûrement un des plus beaux tournois que j'ai participé en termes d'organisation, beaucoup d'espace pour jouer, vraiment très très plaisant. Et en termes de performance, eh bien, écoute, je suis relativement content de ma performance, puisque j'ai terminé avec 4 victoires, 2 défaites, ce qui me donne une 20e place. Et à savoir que la personne qui m'a battu en tout dernier, donc celle qui m'a empêché d'atteindre le top 8, synonyme de quart de finale, c'est la personne qui gagna le régional, et c'est aussi une personne avec qui je joue régulièrement les mardis soirs.
Ah bah c'est bien.
Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. C'était moins drôle de tomber sur lui, vu que j'avais une liste qui avait un combo caché, qui était un peu... j'avais réussi à faire une liste avec un combo caché, là que les gens voyaient pas, et c'était ça, c'était l'effet de surprise. Puis lui, comme ça fait plein de fois que je joue contre lui, il connaissait par cœur, donc je perdais un peu d'intérêt de ma liste. Mais non, c'était super chouette, c'était un super moment, et il est très content d'avoir passé ce samedi à ça.
J'imagine ton visage quand t'as vu que tu l'affrontais. Oh putain, là.
À peu près, ouais. C'est ce qu'on s'est dit en se regardant, on a fait, il y en a un qui va être très content, et l'autre qui sera juste content.
Donc, super. T'as dit c'est à Montréal, c'est où d'habitude? Que tu disais dans quelle région?
La dernière fois ou les deux dernières fois, c'était à Québec. Et là, pour une raison complètement inconnue, en fait, il va y avoir un autre tournoi régional à Québec. Je pense que Fantasy Flight Game a pas bien compris que Montréal et Québec étaient dans la même région. Tant mieux pour nous, ça nous fait deux beaux tournois en même temps. Mais c'est ça, ouais. C'est l'habitude, c'est plutôt à Québec.
Donc, est-ce qu'il va y avoir un affrontement entre les gagnants des deux pour décider c'est qui le champion provincial ou quoi que ce soit ou...
Non, pas vraiment. En fait, le gagnant du régional, ce qu'il gagne, c'est ce qu'on appelle un bail pour le national. Et un bail, c'est une victoire automatique au premier tour du national. Donc, non, le gagnant du régional qu'il y aura à Québec, il va lui aussi gagner un bail. Et puis, il n'y a pas vraiment de savoir qui est le meilleur régional, quoi. C'est plus l'idée de... de gagner le tournoi, de gagner le prix, parce qu'il y a une jolie, il y a des jolis prix à gagner quand même pendant le tournoi, suivant ta position. Et puis, puis voilà, mais je pense pas qu'il y ait... Quoique, ça pourrait être amusant à faire. Tu me diras, on verra quand le régional sera passé. Là, on a de la chance parce que le gagnant régional est à Montréal. Enfin, en tout cas, dans la région de Montréal. Faut savoir qu'en finale, il a affronté quelqu'un qui venait de Boston. Donc,
quand même.
Heureusement que si on veut faire ce genre de match, heureusement que c'est quelqu'un de Montréal. Donc voilà.
Excellent. On va rester dans du côté X-Wing. Pour ma part, ben, j'ai finalement déballé la vague 13 d'X-Wing miniature qui était sur mon bureau depuis avant Noël. Donc, si vous avez regardé Star Wars en direct, ben, j'ai pris le temps de déballer un peu puis lire les cartes rapidement. Ça a l'air quand même intéressant. Donc, j'ai hâte d'essayer le Resistance Bomber et le TIE Silencer. Aussi, j'ai fait beaucoup d'éditions de Star Wars en direct, donc ça m'a bloqué beaucoup de temps Star Wars, mais j'ai quand même été capable de continuer le roman Canto Bite. Je suis peut-être rendu à la moitié maintenant, on va essayer de vous en parler éventuellement dans un futur Star Wars en direct. Donc, je viens de le mentionner, dans les émissions les plus récentes, Star Wars en direct express, j'ai fait un unboxing de la vague 13, donc le Resistance Bomber et le TIE Silencer. Ça va en direct littérature numéro 20 aussi, où est-ce qu'on parle, moi et Jean-François, du roman The Legends of Luke Skywalker et du recueil de nouvelles From a Certain Point of View. Et aussi le Star Wars en direct 143, où Sébastien Galano, Céline et Sylvain font une mise à jour sur le film Solo, A Star Wars Story. Donc en fait, tout ce qu'on sait jusqu'à présent, en attente éternelle de la bande-annonce. Donc, elle va apparaître à un moment donné, j'espère.
Elle sortira peut-être après le film.
Ouais, c'est ça. Juste avant le film, on met la bande-annonce.
Voilà, tu vas voir le film, et juste avant le film, t'as la bande-annonce.
Exactement. Pour une surprise, un petit teaser là, pour les quelques minutes avant.
Et là, ça sera le meilleur Star Wars qu'on aura jamais vu.
Ouais, parce que personne ne va savoir absolument rien. Donc, merci à nos partenaires Mintin Box, Star Wars Olonet, Siteclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science Fiction. Sur ce, on s'en va en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc, étant donné qu'on va surtout plonger dans un survol détaillé de la vague 11, on va aller relativement rapidement sur les actualités. Donc, on va commencer avec une des grosses actualités côté jeu de plateau, jeu de table. C'est la sortie de Star Wars Legion qui s'en vient. Donc, le 22 mars prochain, le jeu Star Wars Legion, qui est un peu une espèce de Warhammer version Star Wars, donc c'est avec des figurines, des troupes au sol. Il va sortir, comme j'ai mentionné, le 22 mars. Et bon, si vous précommandez chez Fantasy Flight Games, vous allez avoir aussi un ensemble d'images 8,5 par 11. Ouais, j'imagine des illustrations, etc. Le jeu de base devrait coûter 89,95 US, l'équivalent en euros. Donc, c'est quand même relativement cher, mais ça contient 33 figurines de plastique, dont Luke, Skywalker et Darth Vader. Tu as des soldats rebelles et des Stormtroopers. Tu vas avoir un AT-ST, un AT-RT. Les AT-RT, c'est une espèce de petit AT-ST miniature que les soldats peuvent chevaucher. C'est comme une version miniature, un petit peu sans espèce de carlingue sur le dessus.
Ouais, c'est l'espèce de bipode sur le que chevauchent les clones dans Clone Wars, entre autres.
Ouais, exactement.
Les Kashyyyk Troopers sont dessus, ou des choses comme ça.
Aussi, inclus dans le jeu, vous avez 8 barricades de plastique, 15 dés, donc quand même un bon set de dés, 3 gabarits de déplacement, une règle de portée, 8 cartes unités, 35 cartes d'amélioration, 14 cartes de commandement, 12 cartes de bataille, un compteur de round et 100 pions divers et jetons, plus le livret d'apprentissage. Donc, c'est quand même tout ce que vous avez besoin pour faire une partie complète. Là. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la boîte, d'où le coût de 89,95 US ou euros. J'imagine en argent canadien, ça doit être autour de 110, 115, tout dépendant du distributeur, parce que c'est... relativement cher quand même au Canada.
Oui, à noter quand même que les figurines ne sont pas peintes, c'est des figurines qui viennent grises. Hein. C'est vraiment dans le même genre que Warhammer, c'est-à-dire sortez les pinceaux, les airbrush et attaquez la peinture.
Oui, pour moi, c'est c'est une dissuasion pour moi d'acheter. Je veux absolument pas mettre du temps pour peinturer, donc pour moi, je l'achèterai pas personnellement. Ça a l'air quand même intéressant. J'ai lu un petit peu rapidement un peu le fonctionnement, puis ça a l'air relativement intéressant. C'est un jeu de type comme X-Wing, avec le même genre, sauf au sol. Donc, justement, en même temps que le jeu, le 22 mars, il va y avoir des expansion packs qui vont sortir. Donc, ils sortent en grand. Ils mettent beaucoup d'efforts sur ce jeu-là pour le lancer en grand, un peu comme ils ont fait avec Star Wars Destiny. Donc, du côté de l'Empire, dans les extensions, vous allez avoir le 74Z Speeder Bike, donc les fameux Speeder Bike. Donc, vous allez avoir deux Speeder Bike plus les cartes d'amélioration pour 24,95 US. On peut dire que ça va être l'équivalent en euros. Vous allez avoir le ATST plus des cartes d'amélioration pour 50 US, donc 49,95 US. Et vous allez avoir un pack de Stormtrooper qui contient 7 figurines en position dynamique. Bien sûr, comme tu l'as dit, Julien, non peintes. Et puis qui sont faciles à assembler avec des cartes d'amélioration pour 25,95 US. Du côté des rebelles, le 22 mars, vous allez avoir le ATRT avec 3 accessoires différents pour être attaché à votre figurine, donc différents types d'armes, etc., plus des cartes d'amélioration pour 24,95 US. Vous allez avoir le Airspeeder T-47, donc le fameux Snow Speeder que l'on voit dans l'Empire Contre-Attaque. Vous allez avoir le vaisseau et les cartes d'amélioration pour 30$ US, donc 29,95$. Vous allez avoir aussi le pack de soldats rebelles, donc les Rebel Troopers, donc plus les troupes au sol, pour 24,95$ aussi. Un peu plus tard, il y a eu d'autres expansions d'annoncer, mais qui vont sortir plus tard. Donc vous avez l'extension Snow Trooper, avec 7 figurines encore en position dynamique et bien sûr non peinte, pour 24,95$. Et le commandant General Veers, avec le commandant et les cartes de commandement. Côté rebelles, vous allez avoir les soldats de flotte, donc les Fleet Troopers. Encore une fois, un pack de 7 figurines non peintes en position dynamique qui va aussi coûter 24,95. Et commandant Leia Organa, donc tu vas avoir la figurine plus les cartes de commandement pour 12,95 US. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont sortir d'ici probablement les 6 prochains mois. Comme on dit, ils veulent lancer ça en grand. Je crois qu'ils misent beaucoup là-dessus. Peut-être avec un essoufflement des X-Wing. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Julien, on en parlait hors d'onde un peu. Hein? Ça commence. C'est plus difficile pour ceux qui veulent rentrer à jouer X-Wing maintenant. Là.
Oui, mais reste que X-Wing reste tout de même leur jeu phare. Et c'est quand même un jeu où ils ont du mal à fournir la demande. C'est-à-dire que, par exemple, tu as fait un magnifique unboxing de la vague 13. Je n'ai toujours pas la vague 13, pas parce que je ne l'ai pas acheté, c'est parce que je ne peux pas l'acheter puisqu'il n'est pas disponible. Donc, je ne pense pas que c'est un essoufflement d'X-Wing. Je dirais plus qu'ils essayent d'attaquer un autre marché, qu'ils essayent de récupérer un autre marché, qu'ils ouvrent encore un peu plus grand. Moi, ce que je constate juste, c'est qu'en termes de prix, ils y vont pas par le dos de la cuillère, quand même. On parle quand même de figurines. Là, tu parlais de la TST à $50. Je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. $50, c'est quasiment le prix, c'est même plus cher que le prix des plupart des vaisseaux X-Wing. Je sais pas, faudrait vérifier le Ghost, mais le Ghost, à mon avis, le Ghost qui est l'énorme vaisseau qui est déjà peint, il est à mon avis moins cher que $50 US. Je trouve que même qu'au niveau prix ils y vont un peu fort. Je me demande si ça va pas être le frein, parce que quelque chose que je constate moi personnellement, et on constate ça aussi au niveau des gens qui jouent autour de moi, c'est que Fantasy Flight Games, ils ont un problème, c'est qu'ils ils ont du monde pour jouer, ils ont pas beaucoup de jeunes. Il y a très très peu de jeunes en tout cas qu'on voit en tournoi. C'est très très rare, donc je me demande si le prix d'entrée, là, il n'est pas trop haut.
Probablement, oui. Non, mais les jeunes jouent à des jeux vidéo beaucoup plus, n'est-ce pas? En fait, on va continuer dans les actualités, justement, par rapport à ça.
T'as vu la transition, un peu?
Ah oui, hein? C'est fort.
Et effectivement, au niveau jeu vidéo, on a... alors, l'avantage avec Star Wars, c'est quand on parle jeu vidéo, on parle pas beaucoup de jeux, puisqu'il y en a qu'un seul qui est actuellement sorti, c'est Star Wars Battlefront 2. Mm-hmm. Et alors, la première news, c'est que Electronic Arts, donc l'éditeur de Star Wars Battlefront 2, a annoncé qu'ils n'étaient pas contents des ventes du jeu, puisqu'ils ont vendu seulement 9 millions de copies, alors qu'ils attendaient d'en vendre 10 millions. Ça signifie donc qu'ils ont vendu moins de copies que Battlefront 1 et que Battlefield 1. Alors, évidemment, pour justifier, surtout auprès de ses investisseurs, le pourquoi du comment de cette contre-performance, on parle quand même d'un jeu qui s'est vendu à 9 millions, hein, c'est quand même pas non plus un échec total. Mais pour justifier cette contre-performance, Electronic Arts met en avant, évidemment, l'énorme controverse qui est sur les lootbox. Donc eux, ils blâment cette controverse. Moi, personnellement, je dirais qu'il faudrait plutôt blâmer Electronic Arts d'avoir donné les moyens de faire une controverse. Chacun aura son point de vue. Et EA, donc Electronic Arts, en a profité pour annoncer que les microtransactions seront bientôt de retour. On ne sait pas exactement dans quel format, on ne sait pas exactement comment, mais ils seront bientôt de retour. Donc, ce qui confirme temporaire qu'il y avait eu lors de la première annulation des microtransactions au moment de la controverse qu'il y avait eu à la sortie du jeu.
C'était juste une suspension, en fait.
Ils ont c'est juste ça, c'est suspendu temporairement, je crois qu'ils avaient formulé ça comme ça.
En espérant que ce soit plus des trucs cosmétiques comme on parlait au dernier Star Wars en direct gamer, et puis qu'ils ont annoncé le retour des microtransactions, mais juste pour le cosmétique et non pour les avantages dans le jeu. Ça reste à voir. Mais je pense que s'il n'y a pas d'avantages dans le jeu, il n'y aura pas plus de ventes.
Difficile de juger, je te dirais, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui arrivent à bien marcher avec le cosmétique. Je te dirais que l'inconvénient de Star Wars, c'est que tu ne peux pas vraiment aller facilement dans le cosmétique, parce que un Stormtrooper, c'est un Stormtrooper. Je veux dire, je ne vois pas quelqu'un acheter une combinaison jaune ou or d'un Stormtrooper. Tu vas pouvoir le faire peut-être sur les héros, tu vois, genre Leia, Luke Skywalker ou des choses comme ça. Je reste persuadé que si jamais ils sortent Kylo Ren avec le torse nu, ils en vendront, ça sera leur meilleure vente. Mais
probablement,
je pense que le cosmétique va rester, à mon avis, bloqué pas mal sur les héros. Je sais pas trop comment ils vont faire, très honnêtement.
À moins que ce soit juste des petits designs sur les casques ou des trucs comme ça, là.
Oui, ils pourraient faire ça, ils pourraient faire ça. C'est vrai que les clones, il y a 40 000 bataillons différents, donc tu pourrais faire les peintures différentes des différents bataillons. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen. Je veux dire, tu pourrais imaginer, plutôt que d'avoir un Snowtrooper, tu pourrais imaginer avoir un autre personnage, je sais pas. Il y a sûrement moyen de faire des choses. Je leur fais extrêmement confiance pour être créatif, pour venir récupérer de l'argent. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, on verra. On verra. Ça sera la surprise.
On va continuer avec Electronic Arts qui annonce d'autres extensions encore un petit peu. Là.
Oui, quelque chose qui n'est pas une surprise, puisqu'on savait qu'il allait avoir de la suite, des extensions. Et donc, Electronic Arts annonce que pour le mois de février, il y aura un nouveau mode de jeu qui s'appellera le Jetpack Cavalry. C'est un mode de jeu dans lequel vous allez avoir deux équipes de 8 joueurs qui vont s'affronter avec des jetpacks. Et voilà. Et ce mode de jeu aura la particularité étrange d'être seulement disponible pour un temps limité. Donc si jamais vous êtes extrêmement passionné du jetpack et que ça vous dirait de faire des combats spatiaux et que vous voulez pas passer dans le mode avec les vaisseaux spatiaux, eh ben le mois de février devrait être pour vous. Et alors ils disent que ça sera limité dans le temps, mais on sait pas exactement combien de temps. Donc si ça vous tente, relancez Battlefront 2, regardez ce que ça vaut et puis éclatez-vous.
C'est comme s'ils voulaient faire une petite bêta pour voir si ça allait fonctionner, ce mode de jeu-là. Et puis, ça fonctionne, on va le garder, sinon on l'enlève.
C'est particulier. Je sais pas exactement, je pense qu'ils veulent essayer de jouer sur le système. On le met pour un temps limité pour que les gens reviennent. Je sais pas, on verra. Écoute, c'est eux qui ont une batterie de marketeurs, de marketing impressionnant. Nous, on est juste des simples joueurs. Je te dirais, s'ils le font, c'est qu'ils ont l'intuition que ça va marcher. Ils ont sûrement d'autres chiffres ou d'autres idées en tête. Donc, allons-y.
Et finalement, encore EA qui confirme des trucs.
Oui, alors, on est toujours... Et au début, je vous disais qu'on parlait que d'un seul jeu Star Wars, puisqu'il y avait Battlefront 2, c'est vrai. Mais c'est vrai seulement pour le moment, puisque Electronic Arts a annoncé que le jeu de Visceral Games, l'ancien studio qui a été depuis démantelé, détruit, le jeu a été repris, enfin bref, c'est un peu compliqué la genèse, la gestation de ce produit-là, mais en tout cas le jeu de Visceral Games est toujours dans les cartons et a priori Electronic Arts annonce qu'il sortira pour 2020.
Donc on prend ça avec un grain de sel, bien sûr, parce que...
Oui, et parmi les grains de sel, justement, on peut passer rapidement, puisqu'on parle beaucoup d'Electronic Arts, puisque c'est eux qui ont l'exclusivité, on va dire, de la licence Star Wars en termes de jeux vidéo, pour l'instant, on va dire, parce qu'avec ce qu'ils font avec Battlefront, ça a failli leur coûter cher. Mais il y a eu des petites rumeurs de couloir, alors attention, c'est à prendre avec des énormes pincettes, c'est vraiment des rumeurs de couloir. A priori, Microsoft... essaierait de voir pour peut-être acheter Electronic Arts. Ça serait un énorme changement dans le microcosme jeu vidéo, parce que si jamais cela devait arriver, ça signifie que tous les jeux Electronic Arts deviendraient des exclusivités Microsoft, donc Windows 10, Xbox One. Et ça serait un coup dur à Sony et à la PlayStation 4. Donc, mais attention, c'est vraiment juste des bris de couloir pour l'instant, à voir dans les prochaines semaines. Je pense que si jamais ça se fait, vous en entendrez parler de toute façon, parce que ça va être un rachat à coup de millions.
Milliards, presque.
Ouais, peut-être milliards, ouais.
Parce que je fais juste penser à tous les jeux de sport que Electronic Arts ont. C'est ridicule, surtout FIFA... Et tous les jeux.
T'as FIFA pour le soccer, t'as NFL pour le football américain, NHL pour le hockey, t'as un jeu de baseball si je me trompe pas, t'as le jeu de basket NBA, et ça c'est seulement les jeux de sport. Après tu rentres après dans toute la batterie, parce qu'Electronic Arts a quand même racheté énormément de studios récemment, et démantelé aussi beaucoup de studios. Visceral Game, coucou. Donc voilà.
À suivre. Donc, merci Julien. Et maintenant, on va tout de suite passer à la. On peut pas, ça se dit pas de décortisation.
La description.
Description,
on va,
ouais,
on va ou alors on va décortiquer.
Décortiquer, le mot que je cherchais. Donc, maintenant, on va décortiquer la vague 11 du jeu miniature. Il y a eu trois vaisseaux qui sont sortis, le TIE Aggressor. De la faction Empire, il y a eu le Ozituk Gunship du côté des rebelles et tu as eu le Skurg H6 Bomber du côté des Scum. Donc on va commencer immédiatement avec le TIE Aggressor. Si vous regardez la maquette en tant que telle, ça ressemble énormément à un TIE Advance de Darth Vader, sauf que ils ont vraiment à l'arrière rajouté une tourelle probablement pour finalement avoir un véhicule de l'Empire, un vaisseau de l'Empire,
les TLT.
Oui, TLT qui est Twin Laser Turret pour ceux qui ne
le
sauraient
pas. Oui, les Twin Laser Turret. Mais c'est vrai que aucun vaisseau avant celui-là, Empire, l'Empire n'avait absolument aucun vaisseau sur lequel on pouvait équiper des tourelles. Et donc, ce vaisseau arrive. Ce qui est pour moi, joueur Empire, une grande nouveauté, puisque ça m'ouvre tout un spectre de stratégie, de tactique et de bricolage de composition que je ne pouvais pas parce que je n'avais pas de tourelle.
Exactement. Donc, encore une fois, si vous regardez la maquette, ben, vis-à-vis la tourelle à l'arrière, ben, les ailes ont été retirées. Donc, ça fait les ailes sont pas comme celui de TIE Advance de Darth Vader, mais sont coupées pour laisser la place au tir de tourelle pour pas qu'il tire sur les ailes, en fait. Donc, le TIE Aggressor, côté manœuvre, on n'ira pas trop en détail, mais bon, il y a une seule manœuvre rouge qui est le 4 K-turn. Le reste, c'est relativement. Les tout droits sont verts sauf vitesse 4. Et puis, tu as les virages. À gauche et à droite, pas les virages, les courbes, je dirais, à gauche et à droite qui sont verts, le reste c'est tout blanc. Donc, relativement manœuvrable, surtout que il n'y a pas la vitesse 1 vraiment 90 degrés, mais quand même, c'est quand même bien comme cadran de manœuvre. On va aller aux cartes de pilote maintenant. Donc, le vaisseau de base, donc celui qui est le plus bas en habileté de pilote, à 2 points. C'est le Senior Specialist. Il coûte 17 points. comme dans la barre d'action, vous avez Focus, Target Lock et Barrel Roll. Il n'y a pas vraiment d'habilité particulière pour ce pilote-là. Comme tous les autres TIE Aggressor, vous avez 2 d'attaque, 2 de défense, 4 de Hull ou de Carlingue et 1 de bouclier, donc de Shield. Dans la barre d'amélioration, vous avez le double missile, donc deux espaces de missiles et la fameuse espace tourelle. Et voilà, pour 17 points, c'est relativement pas trop cher pour une carte de un vaisseau de base. Ensuite, on saute au pilote unique Double Edge à 4 d'habilité de pilote à 19 points, donc 2 points de plus comme coût. Et vous rajoutez bien sûr, dans ce cas-ci, le EPT, donc le talent de pilote élite. Et lui, comme habilité, une fois par ronde, après que vous avez fait une attaque d'armes secondaires qui n'a pas frappé, vous pouvez faire une attaque avec une autre arme. Donc, la façon que moi je l'ai compris, c'est que, par exemple, si ta première attaque qui n'est pas ton attaque primaire ne frappe pas, si tu as des missiles, par exemple, tu peux tirer des missiles immédiatement. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu comprends un peu, Julien, ou...
Alors, il faut savoir que justement, le phrasé de cette carte était un peu ambigu. Donc, dans une FAQ, qui est le document que sort Fantasy Flight Games pour faire des corrections sur les cartes, ou spécifier les cartes, justement, Double Edge apparaît pour clarifier un peu la situation.
J'imagine qu'ils ont rajouté un mot, là.
Ouais, en fait, c'est ça. C'est, tu fais une première attaque avec une arme secondaire, c'est-à-dire soit avec ta tourelle, soit avec tes missiles. Et si jamais cette attaque ne touche pas, tu peux faire une attaque avec l'arme principale. C'est tout simplement ça que ça
D'accord,
veut dire.
D'accord, donc c'est l'inverse.
Donc typiquement...
Ok.
Oui. De toute façon, la carte, c'est « After you perform a secondary weapon attack ». Donc, « secondary weapon », c'est les armes secondaires, c'est-à-dire missiles et tourelles. Donc, après que tu aies fait cette attaque, soit avec ta tourelle, soit avec ton missile, si jamais ça n'a pas touché, tu peux faire une attaque avec le tir principal.
Si, t'en avais pas, bien sûr.
Alors, à savoir que tu n'es pas obligé d'attaquer le vaisseau que tu as attaqué juste avant. Je m'explique.
Ah.
Si tu tires avec une tourelle, tu peux tirer à 360 degrés autour de toi. On peut tout à fait imaginer que tu vises un vaisseau avec ta tourelle, mais que tu ne le touches pas. À ce moment-là, tu lances une attaque avec ton canon principal, mais ton attaque... tu peux la faire sur un vaisseau différent.
Seulement dans ton champ en avant, par contre. Ouais.
Évidemment, parce que c'est ton attaque avec une arme principale, donc tu as les mêmes règles qui sont, faut pas que ton vaisseau, faut pas que tu sois en contact avec le vaisseau sur lequel tu tires. Il faut qu'il soit dans ton champ, là, dans ton arc de tir. Et les mêmes règles s'appliquent, c'est-à-dire que si t'es à portée de 1, t'as un dé supplémentaire, si t'es à portée de 3, il a un dé supplémentaire de défense, etc.
Excellent. Donc, ensuite, on s'en va à une habilité de pilote de 5 avec Onyx Squadron Escort à 19 points, qui est le même pointage que le Double Edge. Cependant, on perd le talent de pilote élite ici, surprenamment. et il n'a pas d'habilité particulière, surprenamment. Donc, on a un pilote plus habile, mais pas d'habilité particulière qui n'a pas de talent de pilote élite. Donc, c'est peut-être bon, vu le coût et le fait qu'il est en milieu de terrain, dans l'ordre de jeu, je dirais que ça peut être intéressant à avoir pour le coût, quand même. Donc, mais sinon...
Très honnêtement, je vois aucun intérêt à ce pilote. Le seul intérêt, c'est que c'est pas un pilote unique, c'est-à-dire que Double Edge, étant un pilote unique, tu peux l'utiliser qu'une fois. Mais je vois pas l'intérêt vraiment de cette carte de gagner des compétences pilotes, donc du pilot skill, pour perdre en plus l'élite pilote. À ce moment-là, autant aller chercher le moins cher des pilotes et essayer de blinder au niveau amélioration.
Ouais.
Je vois pas exactement, mais peut-être qu'il y en a un. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont trouver une composition où ce pilote est intéressant. Maintenant, je vois pas vraiment, il va bouger plutôt vers la fin comme le pilote générique le plus bas, là. Je sais pas. Je vois pas vraiment le gain avec les points, je suis pas convaincu.
D'accord. Et on termine dans les cartes de pilote avec Lieutenant Kestal à 7 de pilote d'habilité pour 22 points. Lui, il regagne le talent de pilote élite. Il dit, lorsque vous attaquez, vous pouvez dépenser un focus, un jeton focus, pour annuler tous les résultats blank, comment on dit en français, blank.
Blanc.
Blanc, ouais. Donc, pour annuler tous les résultats blancs ou blank et tous les focus de votre adversaire, du défendeur. Quand même, ça, je trouve que c'est une habilité super intéressante dans le sens que je crois qu'il y a beaucoup de pilotes ace qui utilisent... en fait, c'est nuit aux pilotes ace. Dans le sens qu'ils utilisent ces autothrusters qui, je pense, qui est déclenché avec si t'as des résultats blank ou quelque chose comme ça, puis d'empêcher de dépenser des focus pour attaquer ou te défendre quand c'est rendu ton tour. Donc, c'est quand même intéressant comme... comme habilité. Je pense que c'est lui que j'avais pris quand j'avais joué.
Oui, absolument. À savoir aussi, toujours dans la FAQ, que Fantasy Flight Games a spécifié quelque chose concernant ce pilote. C'est-à-dire qu'il y avait une ambiguïté quand il est sorti, à savoir quand est-ce que l'habilité du pilote s'enclenchait. Mm-hmm. Est-ce qu'on le faisait avant ou après que l'attaquant ou le défenseur ait utilisé son focus ? Bref, c'était un peu... Il y avait un peu ambiguïté. Fantasy Flight Games a statué... La compétence de lieutenant Kestal, tu l'as fait juste après que l'attaquant ou le défenseur ait lancé ses dés.
D'accord.
Que le défenseur, parce que c'est one attacking, donc juste juste après que le défenseur ait lancé tes dés, tu dis je dépense mon focus pour t'enlever tes focus et tes œils, enlever tes concentrations et tes blancs, et le reste, c'est ce qui se passe.
Donc, en fait, faut que tu le déclenches avant de voir ses résultats ou c'est après avoir vu...
Non, c'est le défenseur lance ses dés.
OK.
Mais c'est avant que le défenseur dise « J'utilise mon jeton de concentration pour modifier mes dés.
Mm-hmm. » OK. Faut vraiment que tu l'interromps avant qu'il dise qu'est-ce qu'il fait.
Ouais, mais en théorie, ça se fait. Enfin, si jamais il le fait pas, tu dis « Ouais, wait a minute, bonhomme, j'ai ma copa, je l'utilise. » Mais non, ça se fait. Faut juste faire attention à ça, en fait.
Mm-hmm. D'accord. Ensuite, ça c'était toutes les cartes de pilote. On a eu quelques nouvelles cartes d'amélioration. Donc on va commencer avec la carte Intensity. Intensity qui est une carte double, donc que l'on tourne d'un côté et l'autre. Donc la carte 10, c'est une carte qui coûte 2 points. C'est une carte de Elite Pilot Talent, donc talent de pilote élite, pour seulement les petits vaisseaux. Et ça dit, après... avoir performé une action de boost ou de barrel roll, vous pouvez assigner un focus ou un evade, un jeton focus ou un jeton evade à votre vaisseau. Si vous le faites, vous retournez cette carte. Et de l'autre côté, intensité épuisée, encore une fois, c'est les mêmes conditions pour les petits vaisseaux. Et à la fin de la phase de combat, vous pouvez dépenser un focus ou un evade pour retourner la carte de son côté original. Donc, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est bien. Cependant, la plupart du temps, quand on joue avec des focus et des evades, ben, à la fin de la phase de combat, il nous en reste plus, ou rarement. Sauf dans le cas d'un pilote, je pense, qui est Poe Dameron, qui garde son focus. Il y a peut-être d'autres vaisseaux, mais Poe Dameron, lui, pourrait utiliser cette carte-là parce qu'il va tout le temps lui rester pratiquement un focus à la fin. Donc, ça lui permet de retourner la carte tout le temps. Donc, la plupart du temps, je pense qu'on utilise toujours nos focus, du moins pour se défendre ou attaquer. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, ça peut arriver que tu termines avec un focus si jamais ton vaisseau se fait pas attaquer et que ton jet de dé est correct dès le départ. Ça peut arriver, c'est une carte qui est utilisée tout de même, parce que c'est une sorte de push the limit, donc repousser les limites en français, qui est une autre carte qui te permet de faire une deux actions. Là, ça te permet de faire un barrel roll ou un boost, donc de te repositionner, peut-être sortir de l'arc. Ça peut être intéressant, c'est sûr que ça demande de faire attention par rapport au fait qu'il faille que tu retournes ta carte deuxième fois. Donc peut-être une stratégie que tu peux faire, c'est te replacer... puis après, partir loin pour faire un focus, pour retourner ta carte, puis revenir. C'est possible de faire aussi ça comme ça. C'est à voir.
D'accord. On poursuit avec une nouvelle carte aussi, Sync Turret, donc tourelle synchronisée en français qu'on pourrait dire. Elle a un coût de 4 quand même. C'est une tourelle et vous lancez 3D, donc vous avez 3D d'attaque pour une distance de 1 à 2. Vous avez besoin d'un target lock et la carte dit vous pouvez attaquer un vaisseau, même un vaisseau en dehors de votre champ de tir. Donc, si le défendeur est à l'intérieur de votre champ de tir principal, vous pouvez rerouler le nombre de dés d'attaque jusqu'à votre valeur de d'attaque. La valeur d'attaque, donc votre chiffre rouge sur votre carte. Quand même intéressant. À défaut d'avoir la Twin Laser Turret, ça peut être intéressant. C'est quand même 3D, donc c'est quand même pas si mal. Ensuite...
Ouais, mais une tourelle qui demande un target lock pour tirer... Ouais. Ouais. Ouais, ça demande... Très honnêtement, je pense que ça demande des combinaisons avec d'autres vaisseaux et des targeting synchronizers ou des choses comme ça. Parce que très honnêtement, avoir un target lock pour tirer avec une tourelle... Ouais. Bouf. Enfin, je trouve ça un peu laborieux.
Mm-hmm. Y'a rien qui va battre la Twin Laser Turret.
Ah si, dépend de comment tu joues, dépend de comment tu joues, t'as quand même d'autres situations, mais c'est vrai que la Twin Laser Turret, c'est la valeur sûre, et c'est tellement la valeur sûre qu'il me semble qu'elle vient dans ce pack.
Mm-hmm, exactement, mais avant on va terminer dans les nouvelles cartes avec le Unguided Rocket, donc les roquettes non guidées. Encore une fois, un coup de 2, vous avez besoin de 2 espaces de missiles par contre, pour pouvoir équiper cette carte. Vous lancez 3 dés d'attaque à une distance de 1 à 3, donc toutes les distances. Vous avez besoin d'un focus et pour attaquer un seul vaisseau. Et la carte dit... Votre dé d'attaque peut être modifié seulement en dépensant un focus dans un jeton focus... avec ses effets habituels. Donc en fait, c'est comme si vous utilisiez un jeton focus, sauf que là, vous avez 3 dés d'attaque, c'est ça?
Oui, en fait, c'est un missile. C'est un missile qui a le premier avantage, c'est que c'est un missile que tu ne retournes pas la carte. Mm-hmm. C'est donc un missile que tu as constamment sur ton vaisseau.
Mm-hmm, tu le gardes,
oui. Il a le deuxième avantage qu'il te demande un focus pour tirer et pas un target lock. L'inconvénient du target lock, c'est que tu es obligé de choisir une cible, et si jamais ton adversaire il arrive à sortir de ton arc avec cette cible, tu peux plus tirer ton missile. Mm-hmm. Là, le fait d'avoir un jeton de concentration ou focus, ça te permet, si jamais tu as un autre vaisseau qui est mieux placé, bref, tu peux tirer sur un vaisseau qui est à ta portée. Mm-hmm. L'inconvénient de ce missile, c'est que tu peux modifier seulement tes dés avec un jeton de concentration, c'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser un target lock pour relancer les dés. Tu ne peux pas utiliser des capacités de pilote à côté ou de pilote annexe ou de copilote qui serait à côté de toi pour relancer tes dés. Mm-hmm. C'est vraiment, je lance mes dés et je fais concentration focus pour les modifier.
Mm-hmm. D'accord. Donc, par exemple, ben, c'est parfait pour ce taille-là parce que j'imagine que, comme tu dis, ben, si tu as une carte d'équipage, ben, lui peut te donner un avantage. Donc, ça ne vaut pas nécessairement la peine d'avoir cette carte-là versus quelqu'un qui n'a pas d'équipage ou d'autres avantages d'avoir cette carte-là.
Oui, et puis ça se marie très bien avec Double Edge. C'est-à-dire que tu mets cette carte sur Double Edge, le pilote Double Edge, tu lances tes missiles, ça ne touche pas, tu tires avec ton canon principal.
Mm-hmm. C'est vrai.
Ça fait qu'un des avantages de faire ça, c'est que ton adversaire, pour se défendre, va être obligé de dépenser ses jetons de focus, evade...
Et qui pourra plus défendre.
Évitement, hein. Voilà. Et donc, à la deuxième attaque avec le canon principal, il pourra potentiellement beaucoup moins se défendre.
Mm-hmm. Excellent. Et puis, bon, on a 2 cartes d'upgrade qu'on a déjà vues. Donc, tu as mentionné la fameuse Twin Laser Turret, la TLT, qui donne 2 attaques. Et puis, aussi Lightweight Frame qu'on avait vu avec le TIE Striker. Qui est une modification.
C'est ça, qui te permet de... C'est une carte qui te permet, si jamais ton adversaire, en tout cas le vaisseau qui t'attaque, lance plus de dés rouges que toi, tu lances de dés verts, Ça te permet de lancer un des verres supplémentaires.
Mm-hmm. Donc, c'est quand même très intéressant.
Tu peux, absolument.
Faire une, tu peux faire une belle liste juste avec les cartes qu'il y a avec ce pack-là pour... cette équipe, par exemple, Vestal avec le Twin Laser Turret, Intensity, Lightweight Frame, puis Unguided Rocket, ou comme tu disais aussi avec Double Edge, et puis là, Unguided Rocket, c'est quand même intéressant.
Oui, oui, de toute façon, cette vague, ces trois vaisseaux qui sont très, très, très intéressants, et je te dirais, dans les trois vaisseaux, celui-là est peut-être le moins utilisé, ouais. Mais ça reste un vaisseau de très bonne qualité, enfin avec lequel tu peux... Non seulement tu as des améliorations très intéressantes, mais aussi tu as des compositions que tu peux faire avec vraiment chouette.
Excellent. Ensuite, Julien, tu vas nous parler du Ozituk Gunship, un vaisseau que je n'ai jamais vu jouer ou que je n'ai jamais joué moi-même. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à son contenu de ce pack-là?
Alors déjà, je déteste Fantasy Flight Game pour avoir sorti ce vaisseau parce que c'est un cauchemar à prononcer et c'est un cauchemar à écrire quand tu fais des news sur Internet. C'est l'horreur. Je me trompe toujours dans les lettres, les chiffres, c'est une catastrophe. Et encore, on va voir les pilotes juste après. Moi, j'en peux plus. C'est vraiment le vaisseau moi qui m'énerve à écrire.
C'est un exercice de diction.
C'est un exercice de diction. Alors, le Azituk, c'est un vaisseau Wookiee. Donc le vaisseau Wookiee, il me semble que c'est un vaisseau que l'on voit dans l'épisode... Ben non, c'est pas dans la prélogie. Je sais pas exactement où on le voit, ce vaisseau.
C'est dans le premier épisode de Star Wars Rebels, dans l'émission pilote, qui vont sauver des Wookiees. On voit le vaisseau, il y a des Wookiees qui débarquent du vaisseau.
Oh, d'accord. Ben, t'as une meilleure mémoire que moi. Donc voilà, donc c'est un vaisseau. C'est une espèce de vaisseau de transport un peu couleur ocre, on va dire. Mm-hmm. C'est un vaisseau qui a la particularité d'avoir un arc de tir à 180 degrés, c'est-à-dire que il est capable de tirer dans toute la partie qui est devant lui à 180 degrés. Capacité ultra importante pour ce qu'on va voir ensuite. C'est un vaisseau qui possède trois points de bouclier et 6 points de coque. C'est donc un vaisseau extrêmement résistant, puisque c'est quand même 9 points de vie. C'est un petit vaisseau, donc il faut détruire tous les points de vie pour avoir les points du vaisseau. Mmh. Notez ça. Tous les points de vie pour avoir les points du vaisseau. Et il a un seul dé de défense, qui le rend donc légèrement faible aux attaques. Ça rentre dans la politique de FFG de faire des vaisseaux avec pas mal de points de vie, mais très peu de défense pour essayer de faire en sorte que ça fasse boom rapidement. Mmh. C'est un vaisseau avec 3 dés d'attaque, donc un vaisseau qui frappe fort. Au niveau du dial, donc des mouvements que fait ce vaisseau, c'est un vaisseau que vous allez jouer de manière extrêmement lente. Pour ceux qui jouent peut-être l'arc 170, c'est un vaisseau que vous allez jouer de la même manière. Et j'irais même, pour ceux qui jouent des navettes type navette lambda ou la navette de Kylo Ren, l'Epsilon Shuttle... C'est plutôt vers ce type de pilotage-là qu'il va falloir s'orienter, puisque c'est un vaisseau qui n'a aucun demi-tour. Mm-hmm. Donc la seule manière de faire demi-tour, c'est de faire des deux séries ou des trois séries deux fois de suite. Au niveau des manœuvres, donc, c'est un vaisseau qui a toutes les manœuvres droites disponibles, donc le 1, le 2, le 3, le 4, à savoir que 1, 2, 3 est vert, le 4 est blanc et le 5 est rouge. C'est la seule manœuvre stressante qu'il y a dans ce cadran de manœuvre, merci pour me donner la version française, dans ce cadran de manœuvre. Au niveau des virages, donc on a les virages légers 1 et 1 à gauche et à droite qui sont verts, et on a les virages légers 2 et 3 qui sont blancs, et les virages serrés 2 et 3 qui sont blancs aussi. Donc aucun demi-tour, ça va vous demander de faire vraiment attention... Au niveau de votre pilotage, c'est un vaisseau vraiment de patience parce que vous allez devoir avancer tout doucement sur votre adversaire. Si vous pilotez ce vaisseau, vous voulez avancer doucement. Si vous jouez contre ce vaisseau, vous voulez une seule chose, c'est passer derrière lui. Une fois que vous passez derrière lui, ça devient compliqué pour votre adversaire de revenir sur vous. C'est là que l'arc de 180 arrive, puisqu'en fait, en faisant un virage serré, vous arrivez à revenir mettre l'arc dans des positions qui vous permettent de tirer. Mais c'est un vaisseau qui est il faut vraiment faire attention au niveau de son pilotage.
Excellent.
Alors, au niveau des pilotes qu'on va trouver sur ce vaisseau, on a 4 pilotes, comme la plupart des vaisseaux, en fait, comme quasiment tous les vaisseaux de chez Fantasy Flight Games. Le pilote le plus bas, c'est un pilote avec une capacité de pilote de 1, donc un pilot skill de 1, qui s'appelle le Kashyyyk Defender. Le Kashyyyk Defender, lui, il vient avec 24 points, 2 équipages possibles, la compétence concentration, focus, et la toute nouvelle compétence, en tout cas toute nouvelle pour X-Wing miniature dans sa version non épique, qui est renforcement, reinforcement en anglais. La compétence reinforcement, elle a fait beaucoup couler d'encre quand elle est sortie, parce qu'elle est très simple à comprendre, mais beaucoup de gens la comprennent mal parce qu'il faut la penser différemment que ce qu'on a l'habitude de faire dans X-Wing. Je m'explique. Reinforcement, donc renforcement, ça vous permet de renforcer, si vous voulez, vos boucliers. Quand vous faites cette action, vous devez dire « je renforce mes boucliers à l'avant » ou « je renforce mes boucliers à l'arrière ». Et vous avez un jeton pour ça qui vous indique. Lorsque vous faites cette action, et si jamais un adversaire vous attaque par l'avant et que vous avez renforcé votre bouclier à l'avant, vous avez de base un evade. Je sais pas comment on dit en français, evade.
Évasion peut-être.
Ouais. Donc vous avez de base un évasion. C'est-à-dire que si votre adversaire fait un seul toucher et qu'il a tiré à travers votre reinforcement, vous n'avez même pas besoin de lancer le dévers puisque vous avez déjà un évasion de base.
Ça donne l'équivalent si tu mettais un jeton evade automatique dans le fond, c'est ça un peu?
Alors non, parce que c'est valable pour tous les tirs. C'est-à-dire que si t'as que tous tes adversaires te tirent par en avant, ou si ton adversaire utilise une Twin Laser Turrette qui tire donc deux fois, s'il tire en avant là où t'as, ou en arrière, hein, si t'as fait ton renforcement à l'arrière, s'il tire à travers ton renforcement, il y aura de base un jeton evade. C'est comme si t'avais de base un jeton evade.
Ok, c'est que tu n'as pas besoin de le dépenser en fait.
Tu le dépenses pas. Il y a un pilote qui te permet de le dépenser, on verra plus tard, mais tu le dépenses pas. Là où ça a commencé à devenir compliqué, c'était de savoir, ok, mais quand est-ce que tu considères que ton adversaire tire à l'avant et quand est-ce que ton adversaire te tire à l'arrière?
Ah, ouais.
Parce que t'as besoin de le savoir, c'est très important. Et c'est là, en fait, où Fantasy Flight Games a complètement changé la façon de penser le jeu, parce que habituellement, quand tu attaques un vaisseau, tu pars du principe que tu te mets à la place de l'attaquant et tu regardes où est-ce que l'attaquant tire. Pour cette capacité, et pour l'instant c'est la seule qui fonctionne comme ça, il faut vous mettre à la place du vaisseau qui défend. Donc, votre Ozituk Gunship, si jamais vous avez fait un renforcement à l'avant, pour savoir si votre adversaire vous tire sur l'avant, c'est facile, c'est savoir est-ce qu'il est dans votre angle de tir à 180.
Ah bah oui.
Si jamais... Mais alors attends, ouais. Ah bah ouais, mais pas forcément, parce que tu peux avoir un adversaire qui est dans ton arc de tir à 180, mais lui ne te tire pas sur ton arc de tir à 180. Mais ça, on s'en fout. C'est la seule chose que vous devez savoir, c'est est-ce que le vaisseau qui défend voit l'adversaire dans son arc de tir principal. Si la réponse est oui, quel que soit l'endroit où il va tirer, quelle que soit la distance la plus courte, c'est considéré comme une attaque à l'avant. Si jamais le vaisseau qui vous tire dessus n'est pas dans votre arc 180 à l'avant, vous ne le voyez pas, vous ne pourriez pas lui tirer dessus, par exemple, alors il est à l'arrière. Okay. C'est là où c'est un peu compliqué, parce que tu peux te dire, ouais, mais attends, moi, mon angle de tir, il est sur l'arrière, et ma distance la plus courte, elle est à l'arrière. Oui, mais si jamais le vaisseau, le Kashyyyk te voit à l'avant, c'est considéré comme une attaque à l'avant. Ça a été compliqué à faire comprendre. J'ai même eu le cas au national l'année dernière, où je suis allé au national et la personne devant moi connaissait pas exactement la règle. Il a fallu venir fenervir deux juges, etc. Enfin, c'était... La règle est simple. Si l'Azituk voit le vaisseau à l'avant, c'est un tir à l'avant, même si l'adversaire tire à l'arrière.
Donc, j'imagine la stratégie avec ce vaisseau-là, c'est absolument essayer de le garder. Si ton adversaire est réussi à te passer derrière, tu le mets toujours à l'arrière la plupart du temps.
Absolument. En fait. Absolument. Et je te dirais même que si tu joues ce vaisseau, c'est ce qu'on appelle un no-brain. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment à réfléchir. Tu bouges, tu fais renforcement. Tu bouges, tu fais renforcement.
C'est l'action que tu fais tout le temps.
C'est l'action que tu fais tout le temps. Le seul cas où potentiellement tu ferais pas un renforcement, c'est si t'es sûr que ton adversaire ne peut pas te tirer dessus et que tu veux faire une belle attaque, et que tu veux faire une attaque avec un focus.
Okay.
Mais sinon, c'est tu bouges, renforcement, tu bouges, renforcement, tu bouges, renforcement.
Mm-hmm. Okay.
Donc maintenant qu'on a passé cette compétence, on va passer au deuxième pilote plus rapidement, qui est le Wookiee Liberator. C'est un pilot skill, donc compétence pilote 3, qui vaut 26 points et vous rajoutez le talent élite, donc la petite médaille. On arrive ensuite sur les deux pilotes nommés, donc ceux qui ont des capacités, des compétences. Et on arrive avec le pilote le plus utilisé avec ce vaisseau, qui est l'Orik. L-O-W-H-H-R-I-C-K. L'Orik, qui a comme particularité, comme compétence pilote, donc c'est un pilot skill, un compétence pilote de 5, il vaut 28 points, il a aussi deux équipages et une médaille, donc un talent élite. Et sa compétence, c'est que si jamais un vaisseau allié à portée de 1 se défend et devrait être touché par un tir, c'est-à-dire qu'après qu'il ait lancé ses dévers, qu'il ait fait ses modifications, il y ait encore un tir qui devrait le toucher, vous pouvez dépenser votre jeton renforcement, donc là tu le dépenses, il n'y est plus pour ce tour-là, pour rajouter un evade, un évitement à ton allié.
Ah, c'est bon. J'imagine qu'il doit le jouer avec Biggs beaucoup, celle-là.
Ouais, bah exactement, avant que Biggs soit nerfé, donc soit réduit, avant que la compétence de Biggs soit réduite, il y avait, notamment aux nationaux l'année dernière, tu avais une composition qui consiste à mettre l'Orik avec Biggs, avec le taille capturé avec Captain Rex dedans, et je sais plus qui était le quatrième pilote, mais en gros ça fait que tu avais Rex qui te faisait tirer un dé de moins, Biggs qui t'obligeait à tirer sur Biggs, et l'Orik qui te rajoutait un evade à Biggs. Enfin, c'était l'enfer, c'était une composition, c'était infernal à toucher. Mais effectivement, ça se joue, t'as bien vu, c'était effectivement ça, un des combos qui existent. Mais sachant que l'Orik se joue encore beaucoup. Hein.
Mm-hmm.
Et le dernier pilote, donc avec compétence de pilote de 7, qui s'appelle Wolf Waro, je m'excuse auprès de lui si ça se prononce mal, qui est donc 30 points, pareil, deux copilotes et la petite médaille, compétence pilote 7. Alors, la compétence de ce pilote, c'est si jamais tu attaques et que tu as plus aucun bouclier et au moins une carte de dommage, tu peux lancer un dé d'attaque de plus.
Ok.
Simple, efficace.
Mm-hmm.
Rien à dire de plus sur ce pilote. Au niveau des cartes qui viennent avec le vaisseau, on a la carte Intimidation, qui est une carte élite qui fait que si jamais tu touches un vaisseau adverse, donc tu l'as bumpé, son agilité est réduite de 1, c'est-à-dire qu'il lancera un dé de vert de moins pour le tour où tu le touches. Tu as la carte Selflessness. Je n'ai aucune idée comment ça a été traduit en français. C'est une carte qui vient spécifiquement, qui est Rebel Only et Petit Vaisseau Only. Seulement, c'est une carte que je te parlais tout à l'heure, cette fameuse composition avec 4 vaisseaux. Bah, cette carte venait avec les 4 vaisseaux, puisque la particularité est que si un de tes vaisseaux alliés à portée de 1 doit être touché par une attaque, tu peux consommer cette carte et faire souffrir à ton vaisseau, à ton nazituc, seulement les hits, hein, pas les critiques, seulement les hits que ce vaisseau aurait dû avoir.
Okay.
Donc en fait, c'est un transfert de dégâts du vaisseau qui est de ton vaisseau allié qui a porté de 1 sur toi, mais c'est seulement les hits, pas les critiques.
En fait, c'est comme une carte de sacrifice, c'est comme...
Ouais, c'est ça, ouais. C'est une sorte de... Ouais. Alors après, tu as une carte d'équipage qui consomme 2 slots d'équipage, qui est Wookiee Commando, qui permet, quand tu attaques, tu peux relancer tous tes résultats qui ont fait un œil, donc un focus. C'est une carte que tu mets souvent dans les Azitucs, parce que du coup tu fais renforcement, t'as pas de focus pour modifier tes dés.
Mm-hmm.
Donc quand tu fais ton attaque, au moins tu peux relancer tes focus.
Ah bah oui, bah oui. C'est très, ça a été fait expressément pour ça, clairement.
Bah oui, complètement, oui. Après t'as Tactician qui est une carte déjà connue, qui est revenue plusieurs fois, donc peut-être pas m'attarder là-dessus.
Non.
Tu as une nouvelle carte qui s'appelle Breach Specialist.
Donc spécialiste des failles, I guess.
Ouais, c'est toujours un peu de mal avec les traductions parce que j'ai toutes les cartes en anglais, donc je m'excuse. Spécialiste des failles, c'est possible, ouais. Donc, en fait, cette carte, c'est si jamais tu dois recevoir un critique, donc une carte de dommage face visible, c'est-à-dire avec le texte, quoi, avec ce qui doit t'arriver, tu peux dépenser ton renforcement, ton reinforcement, pour garder le dégât, mais au moins ne pas avoir les effets de la carte critique. Et si jamais tu le fais, pendant tout le tour, tous les critiques que tu vas prendre vont directement être face cachée. Donc tu n'auras pas les effets des critiques pendant ce tour-là. Mais par contre, tu auras perdu ton renforcement. Donc tu auras un éveil de moins.
Est-ce que tu perds la carte? Non, tu perds pas la carte. Tu gardes la carte.
Je vérifie, mais je crois pas. Non, tu ne perds pas la carte.
Ah, c'est bien. Intéressant.
Et la dernière carte qui vient avec l'extension, c'est Hull Upgrade. Donc amélioration de coque, sûrement. Qui te permet de rajouter un point de coque.
C'est qui pourrait le monter à 10, qui est quand même beaucoup.
Ouais, ben c'est déjà 9, c'est beaucoup, sachant qu'il a tout le temps un éveil à cause de renforcement, sachant que non, ouais, c'est long. Hier soir, pour te donner une idée, j'ai joué contre une composition qui était composée de 4 fois ce vaisseau. Quatre fois ce vaisseau, j'en ai détruit un, il en avait 2 qui lui restaient un point de vie, et j'ai perdu autant parce que c'est... Tu passes ton temps à tirer sur ces machins-là et ça meurt pas, quoi. C'était l'enfer.
Je pense qu'on a oublié de mentionner que Lorik et Wolfaru, c'est 2 pilotes uniques.
Absolument. Oui, c'est des pilotes nommés, c'est des pilotes uniques.
Parfait. Donc, ça complète vraiment le deuxième vaisseau de la vague, qui est le Azetuk Gonsi.
Oui, très très bon vaisseau, très très bon vaisseau, beaucoup joué.
Et on va terminer avec le vaisseau de la vague qui est consacré au scum et vilain, donc en français, comment ils traduisent ça, scum and villainy?
Scum and villainy, ça doit être, je sais pas, on demandera à nos éditeurs français de nous dire comment scum et villainy a été traduit. Donc le Skurg H6 Bomber Expansion Pack, donc le Skurg H6, donc encore un vaisseau avec des lettres doublées. Alors, si jamais vous n'avez pas assez d'argent pour acheter toute la vague, c'est ce vaisseau-là qu'il faut acheter. Et une règle de base, parmi les dernières vagues qui sont sorties, c'est ce vaisseau-là qu'il faut acheter. C'est le vaisseau qui est sorti récemment, qui est extrêmement fort, extrêmement plaisant à jouer. En tournoi, tu le vois tout le temps. Et pourquoi tu le vois tout le temps? Parce qu'il a 5 points de bouclier et 5 points de coque. C'est-à-dire que le Skurg, il a 10 points de vie. Pour ceux qui ne jouent pas en tournoi, quand vous avez un vaisseau sur une grosse base, type un Ghost, type un Decimator, quand vous détruisez la moitié des points de vie, donc la moitié des points de vie, c'est vous prenez les points de bouclier et les points de coque, vous les additionnez, et si vous avez fait plus de la moitié ou plus de dégâts à ce vaisseau-là, vous avez la moitié des points qui vaut pour votre score. Sauf que là, c'est un petit vaisseau, c'est-à-dire que la seule manière d'avoir les points, c'est de le détruire complètement. Et pour le détruire complètement, il faut lui faire 10 points de vie. C'est beaucoup.
C'est ça que je t'ai posé. Il y a les capacités pratiquement d'un vaisseau à grosse base, mais un tout petit.
Et tu as des compositions avec 3 fois ce vaisseau, donc tu as 30 points de vie. C'est des sacs à points de vie. Donc le Skurg qui a la particularité d'être principalement Scum and Villainy, donc Scum, mais... Il vient aussi, et tu peux le jouer rebelle, avec un pilote dont on en parlera juste après. Au niveau des déplacements, il bouge extrêmement bien. C'est un vaisseau dans lequel vous pouvez faire, de base, en vert, vous avez le 1, le 2, le 3 tout droit, et le 2, virage léger. En blanc, vous avez le 1, virage léger, le 2, virage serré, et le 3, virage léger. Et en rouge, vous avez le 3, virage serré. Vous avez la manœuvre qui vous permet de faire un virage serré et de faire demi-tour à votre vaisseau.
Le Talon Roll.
Le Talon Roll, c'est ça, absolument. Et vous avez le 5 qui est rouge, donc qui vous stresse.
5 tout droit.
Ouais, le 5 tout droit. Alors, au niveau du vaisseau en lui-même, ça ressemble un peu à une soucoupe volante, mais qui est plus allongée. Je ne sais pas trop comment le définir. C'est relativement, dans son design, il est relativement simple, mais il a un côté élégant. Il est au niveau des couleurs, il est blanc avec des traces de mauve. Et c'est comme toujours avec Fantasy Flight Games, c'est une très jolie pièce, très bien faite.
C'est comme une aile volante, une aile volante.
Oui, 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 effectivement. Oui, 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 absolument, une aile volante. On va passer tout de suite au pilote. Donc avant de passer au pilote, je vous disais qu'il avait 5 points de coque, 5 points de bouclier. Il a un seul dé de défense et il a 3 dés d'attaque.
Ish. Quand même pas si mal.
Oui, ça frappe fort. Si jamais vous vous posez la question de pourquoi ces vaisseaux sortent en ce moment, Fantasy Flight Games essaye de réduire les temps de partie. Donc ils font de plus en plus de vaisseaux ou de cartes qui tapent très très fort et qui se défendent très très peu. C'est leur façon de faire pour essayer de réduire les parties. Alors au niveau des pilotes, on va commencer par le pilote générique, le pilote tout en bas le pilote avec le moins de points, donc c'est le Kartak. Le Kartak Pirate, donc le pirate Kartak, qui vient avec un pilot skill, une compétence pilote de 1. Il vient avec la possibilité de mettre une tourelle, de mettre des torpilles, de mettre des missiles, de mettre un copilote et de mettre 2 bombes. Autrement dit, un bon gros vaisseau sur lequel vous pouvez mettre plein de trucs qui font boum. Il fait 24 points, vous pouvez faire concentration, focus, target lock ou un tonneau, un barrel roll. Le deuxième pilote, c'est le Lock Revenant. Compétence de pilote de 3, 26 points et comme souvent, alors lui, vous lui rajoutez juste le talent élite en plus. Donc la médaille. Le pilote d'après, c'est Sol Sixa, qui est un pilote avec une compétence pilote de 6, qui a comme capacité spéciale de pouvoir larguer des bombes avec le gabarit de mouvement 1 serré au lieu du 1 tout droit. Donc vous pouvez toujours utiliser le 1 tout droit, mais en plus vous pouvez utiliser le 1 serré pour venir poser les bombes un peu mieux. Et le pilote.
Il coûte 28 points celle-là, n'est-ce pas ? C'est quand même assez dispendieux.
Il coûte 28 points, oui. Oui, oui. Et enfin, le pilote chez les Scum, toujours. Je dirais, et le pilote
à utiliser.
Le pilote du Skurk par excellence, celui que vous voyez sur toutes les tables, dans tous les tournois, celui sans qui ce vaisseau serait sûrement triste, c'est le capitaine Nim qui a pour capacité spéciale de pouvoir ignorer les bombes alliées. C'est-à-dire que si une bombe alliée explose à côté de lui, il s'en fout. Habituellement, lorsque vous posez une bombe et qu'une bombe explose, tous les vaisseaux à range 1, y compris les vaisseaux alliés, doivent prendre les dés de dégâts, les capacités, enfin vous devez lancer les dés, bref, chacun se prend la bombe qui explose sur lui. Eh bien, le capitaine Nim, il prend pas. Autre particularité, si un vaisseau allié se défend et que l'attaquant, lorsque vous mesurez la distance, son tir passe à travers une bombe alliée, eh bien, le défenseur, celui qui se fait attaquer, vous rajoute un résultat évasion en plus. Donc, il a une capacité, c'est surtout sa capacité qui fait qu'il ignore les dégâts des bombes alliées, et donc de ses propres bombes, qui rend ce vaisseau extrêmement puissant. Il vaut 30 points, et il a une compétence pilote de 8. C'est vraiment le pilote par excellence.
Ici, je vois que bon, tu peux jouer... C'est comme ou rebelle, et même dans les deux cas, tu peux ignorer les bombes, mais celui de SCOM a la particularité des vaisseaux alliés que tu viens de mentionner, tandis que les rebelles ne l'ont pas. Est-ce qu'il y a une raison par rapport à ça? Est-ce que la FAQ a fait des changements ou c'est...
Alors non, en fait, effectivement, pour les rebelles, c'est aussi le capitaine Nim, et c'est pas du tout la même compétence. La compétence du capitaine Nim chez les rebelles, il peut empêcher une bombe alliée d'exploser.
Ok, c'est pas tout à fait pareil, c'est vrai. C'est pas ignorer dans le sens de des effets, non, c'est que tu peux les retarder.
Ouais, voilà, c'est ça. Le vaisseau Scum, le capitaine Nim Scum, lui, il prend pas les dégâts, mais la bombe explose quand même à la fin du tour. Le capitaine Nim Rebelle, lui, vous pouvez poser une bombe et dire « cette bombe explose pas ». Une seule, hein, par contre, pas toutes les bombes, une seule bombe par tour. Et ça peut être la même, hein, ça veut dire pendant 6 tours, c'est la même bombe que vous ne faites pas exploser.
Il faut le mentionner à chaque fois.
Dépendant avec qui tu joues.
Ou si on ne le mentionne pas, elle explose automatique.
Ouais, mais ça, c'est toujours pareil, ça dépend avec qui tu joues, tu vois, si c'est évident, tu lui dis, là où il faut vraiment le mentionner, c'est quand t'as plusieurs bombes sur la table, parce que, parce que
tu perds le fil, ouais.
Voilà, mais non, enfin, je veux dire, alors, d'après les règles purement stricto sensus, oui, tu dois dire, cette bombe explose pas. Bon, après, ça reste un jeu, hein, je veux dire, fly casual, comme dirait Han Solo, donc... Gardons ça à l'esprit quand on joue. Mais oui, en théorie, t'es censé le dire. Ouais.
D'accord.
Donc, ce vaisseau est venu avec plusieurs améliorations, notamment Lightning Reflex, donc qui doit être réflexe éclair en français, qui est pour les petits vaisseaux. C'est une carte élite, donc la petite médaille qui coûte un point que tu dépenses. Donc, c'est un one shot dans ta partie. Et en fait, c'est quand tu révèles une manœuvre blanche ou une manœuvre verte, tu peux supprimer cette carte pour faire à ton vaisseau un demi-tour, un 180 à la fin de ta manœuvre. Et à ce moment-là, ton vaisseau recevra en plus un jeton stress.
Et c'est quoi l'utilisation principale de cette carte-là? Je veux dire, c'est vraiment une situation que tu veux te mettre à l'arrière peut-être d'un ennemi?
Ouais, la particularité, c'est que le jeton de stress sur la carte est spécifié, tu le reçois après la phase Check Pilot Stress, qui est la phase qui te permettrait de ne pas faire d'action. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais ta manœuvre, tu fais faire demi-tour à ton vaisseau, tu fais ton action, et après, tu reçois ton stress. Tu vas utiliser ça dans, on va dire, deux cas de figure qui sont... T'essayes de te sauver, et ça va te permettre de te repositionner pour le tour d'après. C'est pas vraiment l'utilisation principale. La principale utilisation, c'est vraiment... Tu te mets dans une position de tir extrêmement avantageuse pour toi, une position de tir, quand je dis une position de tir, c'est pas forcément avec tes canons principaux. Ça peut être aussi avec tes bombes. Tu peux tout à fait faire ta manœuvre, faire demi-tour, déposer ta bombe. Tu fais ta manœuvre 4 en avant, tu dis je fais demi-tour, je dépose ma bombe derrière moi. Comme je suis le capitaine Nim, les dégâts, je m'en fous. Par contre, toi qui es juste devant moi, tu vas prendre les dégâts de la bombe que je viens de déposer.
Je vois.
Ça, c'est ce genre de situation-là. Alors, à noter juste rapidement qu'il y a cette carte a été modifiée par une FAQ juste après. Donc, parce qu'il y avait une petite ambiguïté quant à savoir par rapport à la compétence slam. Donc, la compétence slam qui vous permet de faire deux fois votre manœuvre. Il y avait une combinaison avec Advanced Slam qui posait problème. La carte Advanced Slam vous permettait, quand vous faisiez un slam, de pouvoir faire une action qui était dans votre barre d'action. Sauf que vous ne pouvez pas dépenser Lightning Reflex après un slam et quand même faire votre action. Puisque le Fantasy Flight Game a décidé que non, l'action qui se fait grâce à Advanced Slam doit être faisable après éventuellement que tu aies reçu le stress de Lightning Reflex. Donc tu peux pas faire je fais mon déplacement, je fais slam, je consomme Lightning Reflex pour faire demi-tour et avec Advanced Slam je peux quand même faire mon action. Ça, c'était pas possible. C'est plus possible maintenant. C'était possible avant, ça l'est plus. Ensuite, on a une carte qui était déjà présente dans l'Arc 170 qui est Sismic Torpedo, donc on va pas revenir là-dessus. C'est une torpille qui permet de détruire
des astéroïdes.
On a une carte qui est arrivée avec le Skurg, qui reviendra plus tard dans l'expansion Alpha Class, qui est le nouveau missile qui s'appelle le Cruise Missile. Je pense que ça a été traduit par missile de croisière en français. C'était, jusqu'à la sortie de l'Alpha Class, le missile le plus intéressant à jouer puisque c'est un missile qui a un seul dé d'attaque. On peut se dire à première vue que c'est pas très fort, sauf que vous rajoutez le nombre de dés d'attaque égal à la vitesse de votre manœuvre pour un maximum de 4 additionnels, donc ça vient jusqu'à 5 dés rouges. Donc si vous faites un 4 tout droit et que vous lancez vos missiles, vous allez lancer 5 dés d'attaque, sachant que c'est une carte, donc c'est un missile, ça demande à ce que vous ayez un target lock sur votre adversaire. Mais ça ne demande pas de dépenser le target lock, donc vous avez le target lock pour relancer vos dés. Il y a moyen de faire des... C'est un missile avec une force de frappe assez, assez impressionnante, surtout qu'il ne coûte que 3 points.
Est-ce que si tu arrives à une distance de 1, tu peux avoir un 6e dé?
Non, parce que tu peux lancer ton missile qu'à portée 2-3.
Ah, c'est vrai, excusez, oui.
Et puis la distance ne rentre jamais en compte dans les armes secondaires.
D'accord.
L'arme suivante, alors là, voilà, on est sur l'amélioration qui est jouée par tout le monde maintenant. C'est une amélioration unique, donc il peut y en avoir qu'une seule par composition. C'est Bombplate Generator qui vaut 3 points et qui consomme 2 slots de bombes. Bombplate Generator, c'est super simple. Ça porte son nom en fait, c'est un générateur de bombes. C'est-à-dire que tu peux poser des bombes tous les tours.
Mm-hmm.
Étant donné que tu ne
te débarrasses pas de ta carte.
Tu débarrasses pas de la carte, tu poses des bombes tout le temps. Voilà. C'est si vous voulez commencer à jouer ce vaisseau, allez-y avec ça. Ça fait partie du, on va dire du package de base que vous prenez avec ce vaisseau-là.
Moi, quand j'ai joué, j'avais définitivement cette carte-là quand j'ai joué le Skurg.
Oui, et c'est là où tu commences à voir la désagréable surprise d'avoir des bombes partout. C'est là aussi où tu as le capitaine Nim rebelle qui entre en jeu puisque tu te permets d'empêcher une bombe d'exploser.
Fait que les gens hésitent de se déplacer dans certaines, dans certaines
zones.
Mais
en fait, je te dirais même que c'est grâce à Capitaine Nim que tu peux avoir la particularité d'être capable de poser deux fois une bombe au même endroit.
Ok.
Et donc, vu que tu as empêché la bombe d'exploser, tu as deux bombes au même endroit qui explosent et donc tous les vaisseaux autour prennent les dégâts de deux bombes.
Mm-hmm.
Enfin bref, c'est Bombplate Generator, je vous invite à l'utiliser. Par contre, vous pouvez en avoir qu'un seul par composition puisque c'est une amélioration unique.
Mm-hmm.
Mais c'est un must-have à avoir sur vos vaisseaux. Alors, on a une carte qui avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'elle quand elle est sortie et qui finalement est un vrai pétard mouillé. C'est Minefield Mapper.
Oui, j'ai jamais vu quelqu'un jouer avec ça. Ça avait l'air intéressant à première vue, mais tu dis non, ok.
Ben, en fait, c'est extrêmement drôle. C'est que quand la carte est sortie, tout le monde a trouvé ça génial ou effrayant, dépendant de quel camp vous étiez.
Mm-hmm.
Donc c'est une carte d'équipement avec le petit, je sais plus comment s'appelle cet équipement, c'est le
système.
Système, voilà, exactement. Système qui vaut 0 point et qui te permet durant la phase de préparation, donc de setup, après que tout le monde ait placé ses vaisseaux, tu peux placer sur la table toutes tes cartes bombes. Donc les cartes bombes, ça peut être les bombes, mais ça peut être aussi les mines. Et ce qui fait que tu es capable, alors bien sûr tu dois poser ces bombes ou ces mines à portée de 3 des vaisseaux adverses, tu peux pas les placer sur les vaisseaux adverses, mais ça veut dire qu'au début de la partie tu es capable de poser toutes tes mines, par exemple tes mines de proximité ou tes choses comme ça. C'est très très peu utilisé, j'en ai vu un pendant le tournoi régional. C'est principalement une carte que vous allez utiliser pour pouvoir faire des goulots d'étranglement. C'est-à-dire des endroits que vous voulez interdire le vaisseau, l'adversaire d'aller.
Contrôler les déplacements de ton adversaire.
Oui, c'est ça, absolument. Mais voilà, c'est une carte qui avait fait beaucoup couler d'encre, mais finalement très peu utilisée. On sait pas, ça a l'air moins fort que ça en a l'air, mais je suis persuadé que des gens qui savent très très bien utiliser cette carte peuvent être extrêmement, extrêmement vicieux avec ça.
Mm-hmm. Je les vois planifier le placement d'Astoré dans sachant qu'ils vont avoir, ils vont mettre des bombes un peu partout pour faire vraiment des zones, des pièges.
Ouais, des zones d'interdiction. Mm-hmm. En plus, t'as des vaisseaux avec des tourelles, donc toi, tu resterais dans ta zone d'interdiction. Ouais, ça peut être violent. Ça peut être aussi faire attention parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux qui ont beaucoup de points de vie maintenant. Et passer à travers une mine aujourd'hui. C'est plus aussi dangereux que ça l'était.
Mm-hmm.
Certains, quand t'avais un TIE Interceptor avec 3 points de vie, tu regardais à 2 fois avant de passer dans une mine qui lançait 2 dés rouges.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, quand t'as 10 points de vie sur un vaisseau, tu passes à travers et puis point basta, quoi.
Mm-hmm.
La carte suivante, c'est une tourelle que tu as déjà parlé, c'est le Sinsud Turret.
Mm-hmm.
Donc la fameuse tourelle qu'il faut un target lock pour utiliser.
Mm-hmm.
Voilà, je reviendrai pas dessus.
Non, c'est bon.
Un copilote d'une utilité diabolique qui est utilisée par tout le monde, surtout quand vous utilisez des bombes, et extrêmement quand vous utilisez des bombes, c'est le copilote à avoir, c'est Cade Bane. Enfin, ça fait partie des copilotes à avoir avec Sabine, évidemment. Donc Cade Bane, qui est Scum Only, il vous rajoute un icône de bombe sur ce que vous pouvez transporter.
Donc un troisième. Parce qu'il y en a déjà deux. Il y a déjà deux espaces de bombes.
Un troisième sur ce vaisseau-là, oui. Et en fait, lorsqu'un adversaire lance ses... lorsqu'un adversaire subit des dés de dégâts à cause d'une bombe, une fois par tour, vous pouvez lui faire relancer tous les dés qui sont blancs ou des yeux.
Oh boy. Okay.
Donc en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand vous prenez des dégâts d'une bombe, prenons une bombe classique où les dégâts, c'est 2 dés rouges. Donc votre vaisseau prend 2 dés rouges à cause de la bombe, vous lancez vos 2 dés rouges et vous vous faites toucher par tout ce qui est hit et critique. Si jamais ça fait concentration, donc focus ou blanc, ça touche pas. Sauf que 4 Bane vous permet de relancer tous les dés, un ou plus, pas forcément tous les dés, mais tous les dés qu'on fait œil ou blanc, il peut vous les faire relancer.
C'est vraiment fort. Ouais.
Donc potentiellement, c'est pour ça que je te dis que c'est un must-have à avoir quand tu joues des bombes Scum. Ça fait partie des cartes désagréables.
T'es garanti quasiment juste par le nombre de hits ou critiques que sur un dé, t'es pratiquement garanti par le hasard
quand tu lances un dé, si ton dé est équilibré, t'as 50% de chance de toucher. Mm-hmm. Un dé rouge, c'est 50% de chance de faire un hit ou un crit. Mm-hmm. Donc potentiellement, si tu fais relancer un dé, t'as à nouveau 50% de chance de refaire toucher. Donc c'est sûr que ça augmente les chances d'être désagréable. Mm-hmm. La carte suivante, c'est un droïde astromech. Alors, c'est pas les droïdes astromech tête ronde, c'est les droïdes astromech tête carrée. C'est R4E1, qui est une carte qui te permet de faire une action sur... Enfin, de faire une action torpille ou bombe, même si tu es stressé.
Mmh. Et tu te débarrasses de la carte, toi.
Tu peux te débarrasser de la carte, et si tu te débarrasses de la carte, tu enlèves le stress que tu viens de gagner.
D'accord.
Donc, t'es pas obligé de te débarrasser de la carte.
Mmh. Ok. Donc, tu prends ton stress, ouais. Si tu veux vraiment l'enlever, ton stress, autre que par une manœuvre verte, ben, tu te débarrasses de la carte, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Okay. Et enfin, mais c'est pas forcément utile, parce que t'as quand même pas mal de verres intéressants sur le Skurg de base. Mm-hmm. Et enfin, la dernière carte, c'est le titre du Skurg, qui est le titre Avok. Et le titre Avok te permet de gagner...
Le système, puis le Unhinged Astromech, c'est ça?
Ok. Donc la dernière carte, c'est le titre Avok, qui est donc le titre du Skurg. Et le titre Avok te permet de gagner les icônes système et les icônes Salvage Astromech, donc les fameuses Astromech tête carrée. Mais par contre, tu perds le copilote, le crew, l'équipage, l'icône équipage. Et si jamais tu fais ça... Tu peux pas équiper des Salvage Astromech, donc des Astromech tête carrée, non uniques. Donc il faut que tous les Astromech que tu mettes sur cette carte, ça soit des Astromech avec un point à côté de leur nom.
Donc, voilà. Donc, t'as pas deux Astromech. T'as un Astromech au lieu de ton copilote. Et puis t'as le système que t'avais pas. T'avais pas le système.
Ouais, c'est ça. C'est un vaisseau vraiment qui se joue énormément aujourd'hui. Surtout avec les compétences qui sont sorties dans les vagues suivantes, notamment avec le bomber rebelle qui vient de sortir. C'est 10 points de vie, c'est un vaisseau qui bouge bien, c'est un vaisseau qui a barrel roll, c'est un vaisseau qui pose des bombes, qui lance des missiles, qui a des tourelles.
Donc tu me dis que pratiquement le must, c'est Cad Bane qu'on voyait dans la série Clone Wars. Donc c'est Cad Bane. Donc peu de gens utilisent la carte de titre Avok. Parce que tu perds 4 bains, tu perds l'option de le choisir.
Dépendant de comment tu veux équiper ton Skurg, 4 bains, c'est sûr que c'est si tu joues les bombes.
Mm-hmm. D'accord.
Et tu peux tout à fait faire un Skurg qui va utiliser des missiles, donc les cruise missiles par exemple, ou les harpoon missiles qui sont sortis récemment. Et à ce moment-là, 4 bains ne te sert à rien et tu peux mettre ton autre astromech. Mm-hmm. Ça dépend vraiment comment tu veux faire ton Skurg, si tu veux en faire un bombardier, si tu veux en faire un vaisseau lanceur de missiles. Sachant que Cad Bane, c'est que pour les scums. Si jamais vous jouez Rebelle, je vous invite à regarder la carte Sabine. La carte Sabine, qui est encore plus désagréable que Cad Bane, puisque la carte Sabine te permet de faire un dégât à un vaisseau à range 1 d'une bombe, même si celui-ci s'est pas fait toucher par la bombe.
Non.
Donc Sabine, t'es sûr de faire un dégât en fait.
Ok.
Donc voilà, c'est vraiment les deux copilotes quand tu joues les bombes qui sont joués par tout le monde, dépendant de la faction dans laquelle tu joues.
Excellent, donc ça fait pas mal le tour des trois vaisseaux de la vague 11. Personnellement, j'ai juste joué avec le Tigresser et le Skurg. J'ai joué une partie que j'avais Lampé, une partie que j'avais Scum. J'ai gagné les deux. Parce que moi et mon ami, on a pris le même escadron qu'on a simplement échangé après. Pour la deuxième partie, j'ai réussi à gagner quand même lors des deux parties. J'avais l'avantage qu'il était pas très habile, parce qu'il joue pas autant que moi, mon ami. Et puis, il se faisait avoir par le Bomblet Generator. Il voyait pas venir que je pouvais en lancer une à chaque ronde. Donc, il se faisait souvent avoir par ça. Là. Puis toi, t'as-tu joué les deux ou les trois?
J'ai joué les trois. Mm-hmm. J'ai joué les trois. Je me suis vraiment obstiné à trouver une liste performante avec les agresseurs. J'ai d'ailleurs fait le national avec double taille agresseur, double taille special force l'année dernière. Mm-hmm. J'ai joué beaucoup moins, mais un petit peu. J'ai quand même joué un petit peu avec le Azituk, vaisseau que j'ai plus de mal à jouer parce que c'est moins dans mon style de jeu. Ce côté patient et avancer tout doucement, c'est un peu moins ma façon de jouer actuellement. Le Skurg, je te dirais que je l'ai joué, mais pour pouvoir le jouer, il faudrait que j'arrive à l'enlever de la boîte de ma conjointe, ce qui n'est pas le cas actuellement parce que c'est son vaisseau actuel. Et elle a quasiment toutes ses parties avec celui-là, c'est un vaisseau qu'elle adore.
Mm-hmm. Excellent. Donc, ben merci Julien, on va conclure l'émission là-dessus. Tous les joueurs des X-Wing Miniatures, si vous avez des commentaires ou des listes que vous pensez être intéressant, qu'on n'a peut-être pas pensé à certaines combinaisons, écrivez-nous à Studio Star Wars en direct ou laissez-nous un commentaire dans l'article de l'épisode ou sur Facebook, sur Twitter ou sur notre chaîne YouTube. Et puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Julien, notre expert, va sûrement être capable de mieux analyser que moi, mais ça peut être quand même intéressant de voir, parce qu'on voit pas nécessairement tout ce qu'on peut imaginer. Il y a le côté compétitif, il y a le côté plaisir aussi, donc il y a toutes sortes de listes différentes qu'on peut faire. Julien, comment les gens peuvent te rejoindre?
Sur l'adresse courriel julien@mintinbox.net.
Excellent. Pour ma part, sur Twitter, Danny Pépin. Donc, prochaine émission, ben on attend encore impatiemment la bande-annonce de Solo A Star Wars Story, donc c'est certain qu'on va faire une émission quand la bande-annonce va sortir, on sait pas quand, possiblement ce week-end au Super Bowl, mais on n'a absolument pas entendu parler de rumeurs ou de pré-bande-annonce ou d'extrait de bande-annonce ou d'annonce qui allait être au Super Bowl, donc c'est possible que ça soit pas au Super Bowl. Est-ce que ça va être avec Black Panther, le film, on sait pas quand est-ce que ça peut être, sinon ils vont nous lancer ça à minuit, une journée de week-end, je sais pas. C'est assez vague, vraiment, la communication par rapport à ce film-là. On connaît absolument rien, et puis c'est très très bientôt, le film. Donc, ça risque d'être la prochaine émission, une des prochaines émissions. On a aussi, je pense, une émission Collector qui a été enregistrée, donc je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va paraître, mais je crois qu'on parle de l'émission sur Netflix, une espèce de documentaire de Toy That Made Us, l'épisode qui était concentré sur les figurines Star Wars quand elles ont sorti pour la trilogie originale. Donc merci à nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science Fiction. Donc de la part de Julien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.